Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Eh bien le bonjour à tout le monde, une nouvelle émission de Par le bout de la lorgnette, c'est exactement la 28e. Une émission alors spéciale aujourd'hui parce que c'est une émission pour des livres adolescents, enfants, mais des livres qui sont engagés. Alors avec nous aujourd'hui, Pauline qui est à côté de moi, salut Pauline.
Salut tout le monde.
Nico aussi, salut Nico.
Bonjour.
Alors Valérie arrive, elle est en transition, salut Valérie.
Salut.
Non, t'étais un peu loin, on t'a pas entendu, c'est pas grave.
Salut !
Salut ! Héloïse n'est pas là. Alors, Héloïse...
Eh oui. Ah, mais vous savez pourquoi ? Moi, elle me l'a dit.
Ah, moi aussi, elle me l'a dit.
Ah, est-ce qu'on a la même version ?
Je ne veux pas savoir.
Ouais. Héloïse a décidé de changer de radio, de partir sur Énergie pour faire des chroniques de rap.
Ah, moi,
mais
alors...
pas sur le rap, elle veut faire du hip-hop en direct.
Ah oui, alors moi, elle m'a dit qu'elle partait suite au succès extraordinaire qu'avait eu ses blagues lors de la dernière émission sur les livres humoristiques, qu'elle partait faire un stage de perfectionnement en blagues.
Chez les Chevaliers du Fiel.
Chez les Chevaliers du Fiel à Agen. Ah,
j'ai entendu cette rumeur.
Ah, donc je pense que c'est vrai, elle me l'a confirmé hier encore.
Ouais, très bien, dans deux semaines on va pouvoir...
re-raconter des blagues.
Ouais, re-raconter des blagues. Les livres pour ados, pour enfants, alors Valérie, toi tu en as beaucoup, mais tu
Est-ce
es pas
Est-ce que les ados
prête.
Sont des enfants
Non.
Alors on va poser la question à Pauline.
Ah non, malheureuse, et surtout dis pas ça.
Voilà.
Très différent.
Donc enfant, ado, ça va pas ensemble.
Non mais je dis enfant et ado, parce que enfin, moi personnellement j'ai des livres pour les deux. Toi, ah mais non, toi t'as qu'un livre, donc tu peux pas savoir.
Je travaille monsieur moi.
Eh oui. Pauline, tu veux ? D'accord, bon mais Valérie a dit c'est Pauline qui commence.
Ok. Très bien.
Pauline, qu'est-ce que tu nous présentes ?
Alors pour commencer, je vais vous présenter le guide du mieux vivre ensemble, ma laïcité, ma religion, mon identité, par Patrick Bannon, illustré par Annelise Boutin chez Actes Sud Junior. Donc c'est un guide, clairement, pour aider les adolescents à dépasser un peu leurs préjugés, à comprendre le rôle de la laïcité.
C'est celui-là ?
C'est celui-là, ouais. Et surtout, bah, à mieux vivre ensemble. En fait, il nous présente le livre en disant que voilà, dans le passé, le ciment de la société, c'était les ressemblances. Mais aujourd'hui, à travers le monde entier, on a des milliers de cultures, de traditions, surtout de religions qui se rencontrent et qui se côtoient et qui même cohabitent. Donc toute cette diversité de croyances, de philosophies, bah, ça devient un peu souvent, trop souvent, une source de conflit. Donc l'objectif de Patrick Bannon dans ce livre, c'est de donner des clés, des outils, mais aussi beaucoup de connaissances pour que la diversité, ça devienne le nouveau ciment des sociétés et pas une source de conflit. Donc pour lui, le vivre ensemble, c'est vraiment, c'est pas quelque chose de naturel. Il faut vraiment faire l'effort pour vivre ensemble, accepter l'autre dans sa différence. C'est un engagement personnel et du coup, il veut vraiment encourager les jeunes à devenir des acteurs de ce vivre ensemble. Donc il va replacer toutes ces notions un peu d'intolérance, d'incompréhension, ce que sont les préjugés, dans tout ça dans l'histoire, dans le monde aussi. Et puis, il va s'appuyer sur beaucoup de textes fondateurs, des textes religieux, philosophiques, tout ce qui a fondé notre société. Et il va nous donner donc des clés pour bien comprendre toutes les réalités qui se dessinent aujourd'hui dans le monde aujourd'hui et guider les adolescents.
Et pour des ados, justement, c'est pas trop documenté ?
Alors, enfin... c'est de grands ados. Actes Sud dit à partir de 15 ans. Je pense que c'est minimum 15 ans. Il faut avoir quand même... voilà, une
troisième, quoi.
Ouais, même je dirais plutôt lycée. Au lycée. Ouais.
Donc t'es vraiment une connaissance historique déjà.
Après lui, il apporte vachement de connaissances. Mm-hmm. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il s'adresse à des ados. Il les prend pas pour des idiots. Mm-hmm. Il leur apporte des vraies choses. Il leur parle juste simplement, correctement.
Oui, puis les textes sont assez courts quand même.
Oui, voilà, c'est des petits textes courts. Alors c'est très centré sur la religion parce que pour lui, il considère que Non, il pense qu'on considère que c'est une source de conflit et lui n'est pas d'accord. Lui, il voit ça autrement et du coup il nous questionne comment on peut se libérer des préjugés qui font qu'on a peur de l'autre, comment on peut lutter contre le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, toutes les formes de discrimination et comment on peut coexister, vivre tous en harmonie. Donc il aborde vraiment beaucoup de thèmes, ça va des stéréotypes, de l'identité, comment on se construit face à l'autre, comment l'autre fait de nous ce qu'on est. Il parle de la laïcité, de la mixité, de l'humanisme, des droits de l'homme, des droits de l'enfant. Donc c'est vraiment, c'est hyper clair, c'est aussi très précis et très complet.
On salue nos amis du Red Boy Crew qui sont en train d'ouvrir le garage.
Mais oui.
Donc voilà, c'est vraiment accessible aux ados parce que soit le vocabulaire est clair et simple, soit il est expliqué quand il y a besoin d'utiliser des mots vraiment plus précis. C'est expliqué. Donc il va vraiment loin dans ses réflexions. Il parle même de l'utilisation des mots à travers l'histoire, ce que veut dire vraiment le mot étranger, par exemple.
Il rappelle aussi, par exemple, qu'il n'y a pas de délit de blasphème dans le code pénal.
Oui.
Donc, il rappelle des éléments de
droit.
Oui.
De droit en France.
Ouais.
Donc, c'est vrai que le parti pris, c'est aussi de se dire que nous, on a eu une séparation de l'Église et de l'État, quand même, au début du XXe siècle. Et que ça a conditionné aussi le regard qu'on porte sur les religions et la laïcité.
Ah c'est un grand défenseur de la laïcité. Là, on le sent, c'est clair et net. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution pour vivre en paix. Ça, c'est vraiment un parti pris qu'il a. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais en tout cas, voilà.
Après, c'est une question de point de vue. Et puis, une question d'histoire des peuples qui vivent ça. C'est-à-dire que si je viens d'un autre pays, avec toute mon histoire, et puis cette non-reconnaissance de la laïcité comme élément fondamental, c'est plus compliqué de partager les choses. Tu vois, l'a vu avec les événements, et surtout avec les ados, qui ont refusé pour certains, qui sont binationaux par exemple, qui ont refusé pour certains de faire la minute de silence ou d'avoir un comportement laïque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de leur culture.
Oui.
C'est aussi un problème culturel, quoi.
Mais pour ça, justement, ils s'adressent à tous les jeunes, c'est-à-dire les jeunes religieux de tous horizons, les jeunes qui n'ont pas de religion, et ils leur expliquent comment être eux-mêmes, vivre leur religion. Ils leur donnent des outils pour vivre leur religion pleinement, tout en étant ensemble, tout en étant en sachant vivre avec les autres qui n'ont pas la même identité, qui n'ont pas la même culture, les mêmes traditions. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il est à part sur la laïcité où là il est très il est pour la laïcité, il a un vrai parti pris. Pour le reste, il est assez ouvert. Il donne juste des clés, des outils,
Le bouquin est vraiment très très bien fait.
C'est pas moralisateur sur
Des ados. Non.
Finalement, c'est pas. On parlait de seconde, de lycée. C'est pas une initiation à la philosophie, à la sociologie, au droit.
Il y a ça aussi, moi je trouve.
Un petit peu, ouais, apparemment dedans là. Non mais là quand on le feuillette en fait ce qu'on voit c'est que il met comme des repères sur lesquels les élèves peuvent, ou les enseignants ou les jeunes qui vont lire ça peuvent s'appuyer avec notamment des repères en disant par exemple que la représentation on dit souvent il faut pas représenter Mahomet, faut pas représenter etc. Et il dit par exemple là je cite, il faut d'abord préciser qu'il n'existe pas dans le Coran de condamnation de la représentation de Mahomet ou de tout autre personnage de l'islam. Ce qui est interdit par le monothéisme du judaïsme comme de l'islam, c'est l'idolâtrie, c'est-à-dire la façon, l'adoration des images. Mais par contre, il explique aussi qu'il y a des représentations qui existent déjà depuis le XVe siècle de Mahomet qui étaient représentées à travers les siècles. Voilà.
Je parle pas de Mahomet, mais est-ce qu'il y a des illustrations ou c'est que du texte
Il y a des illustrations.
Comment sont ces illustrations?
Je les ai moins regardées que le texte, à vrai dire.
Elles sont un peu emblématiques.
Que Valérie, c'est le contraire.
Elles sont un peu emblématiques. C'est Annise Boutin, apparemment, qui a fait ça. Donc, c'est une représentation plutôt de ce qui est dit dans les pages. Quoi. Voilà.
On la connaît, Boutin.
C'est qu'elle porte plainte, là, actuellement, contre la France.
Tu sais qu'elle a dit que si un homme mettait de la crème, c'était pas un homme. Bon, aucun rapport, j'ai lu cette matin sans ça.
Bon, ça dépend de la crème aussi, non ?
Tu devrais pas dire voici.
Et où elle le met ? Ou l'homme et la crème aussi. Pourquoi elle porte plainte?
Parce que t'as dit qu'elle avait vendu que 70 exemplaires de son livre à une émission.
C'est vrai.
Non, elle porte plainte contre la France via les Suisses pour le non-démantèlement d'une des centrales nucléaires qui est à proximité de la Suisse.
Ah bon, elle s'occupe de l'écologie maintenant.
C'est nouveau.
Ben oui, un peu, ouais. Mm-hmm.
Christine? Ah bon. Tiens, intéressant. De toute façon, personne ne l'écoute. Ouais. Donc c'est des illustrations assez minimalistes. On dirait un peu des dessins de je dirais, propagande.
C'est des représentations.
Mais...
Oui, il y a un peu ce caractère-là, dans même les couleurs et tout ça.
Il met beaucoup en avant quand même la religion. Il y a beaucoup de dessins.
Oui, c'est très centré sur la religion. Parce que
c'est des symboliques.
C'est
de là où...
Mais oui, là où il y a le problème. En défenseur de la religion, par exemple, ça a une grande phrase qui ressort dans beaucoup d'interviews de lui, c'est « il n'y a pas de religion archaïque, il n'y a que des pratiques archaïques ». Ça, c'est quelque chose qu'il aime dire, qu'il aime mettre en avant. Voilà, il travaille pour lui, il travaille là-dedans, c'est-à-dire dans le vivre ensemble, même au sein d'entreprises. Il travaille pour des grandes entreprises françaises pour faire accepter les diversités au sein des entreprises. C'est vraiment son...
Ouais. Alors, c'est géré par thématique. Hein.
Oui.
Mon identité, ma religion...
Voilà, en plus, c'est mon
laïcité,
identité, on s'approprie, ils peuvent s'approprier.
Ma laïcité, ma liberté d'expression. Voilà. Non, c'est un bouquin qui a l'air très bien fait, qui a l'air agréable à lire. C'est
le format.
C'est écrit gros aussi pour toi, c'est pas mal.
Ouais.
Il y a des dessins pour moi.
Ouais. Actes Sud Junior. Non, ils ont une collection qui est intéressante sur ça. Hein.
Je crois
ils ont fait un gros boulot.
Il a écrit plusieurs titres, lui, dans cette collection.
Mais on peut le conseiller aussi pour des enseignants, parce qu'il y a quand même énormément de données dedans.
Mais je vois, il y avait ça. Ça, c'était mon problème un peu, de comment le faire arriver dans les mains des ados. À part à travers les enseignants, j'imagine mal un ado arriver dans sa chambre pour le prendre et le feuilleter. Ça, c'est peut-être le
point négatif. Par contre, les parents qui veulent... alors, on pense les enseignants, mais bon, les parents ont un rôle pédagogique et éducatif aussi.
Oui.
Et ça peut être intéressant pour eux de lire ça.
Ouais.
D'abord parce que souvent, les enfants posent des questions. Alors, ça dépend de l'âge des enfants.
Tu lis des livres à tes gosses qui sont en seconde, toi ?
Non, mais moi, ça m'est arrivé de répondre à des questions à un de mes fils sur la religion. À quoi ça sert? Pourquoi c'est fait? Pourquoi est-ce que ça existe? Combien il y en a? Et ce qui se dit, est-ce que c'est vrai? Et pourquoi il y a des gens qui croient en Dieu, etc. Et donc, ça peut apporter des réponses vraiment très, très intéressantes.
Et très concrètes, ouais.
Très concrètes. Et en plus, parce qu'on parle du Coran, mais papa, c'est quoi le Coran? Papa, c'est quoi la Torah, etc.
Tu vois dans l'eau, quand ça fait des petites vagues.
T'allumes la lumière, c'est courant.
Mais c'est vrai que c'est des questions. Et souvent, nous, les adultes, je suis sûr qu'aucun de vous n'a lu le Coran. Ni la Torah, ni complètement la Bible, si ?
Non.
Voilà. Ben,
il n'y a pas d'image pour Valérie.
En tout cas, si, il y a de belles images, ça dépend les...
J'ai essayé de lire la Torah, mais j'ai lu de gauche à droite et ça ne l'a pas fait. Je n'ai pas tout compris.
Mais c'est intéressant de le lire, ou de lire des résumés, ou d'avoir, en tout cas, pour répondre à ça.
Mais c'est extrêmement imagé aussi, hein, le Coran, la Bible, tout ça. À chaque fois, il faut traduire.
Oui, mais justement, il faut lire. Ce qui est intéressant avec des livres comme ça, c'est qu'ils s'inspirent certainement, ils parlent de passages certainement.
On fait référence au Coran, à la Torah.
Mais adapté au niveau de compréhension de celui qui le lit.
Oui,
c'est ça.
C'est là où ça doit être intéressant.
Tu nous rappelles le nom du livre
Le guide du mieux vivre ensemble, ma laïcité, ma religion, mon identité, de Patrick Bannon, chez Actes Sud Junior.
Allez, ben ça démarre bien cette émission.
En tout cas, c'est un livre qui est vraiment
bouquin,
intéressant.
Ouais.
Allez, bon, lâche ce couteau, Valérie, et présente-nous un livre, s'il te plaît.
Arrête de la chance, Nico. J'avais un couteau à la main. Qu'est-ce que vous voulez?
Mais c'est toi qui choisis. Hein.
Je sais pas, d'habitude, tu nous fais un programme.
Oui, mais on était un peu à la bourre aujourd'hui, donc je ne sais pas vos livres.
N'est-ce pas?
Oh, c'est les vacances.
Un livre, par contre, là, pour enfants, clairement, pour du 5-9 ans. Ça s'appelle Juste à côté de moi, donc c'est aux éditions de La Joie de lire, qui est écrit par Sigrid Baffert et Julien Biodo. C'est un livre où il y a beaucoup de dessins, donc j'aime beaucoup, avec peu de texte, encore mieux. Et sur chaque page, ça raconte l'histoire de deux meilleurs amis, donc Igor et Victor. Donc à chaque page, on a à gauche Victor et à droite Igor. Et on suit leurs aventures, donc de meilleurs amis du monde. Et bon, moi, la première lecture que j'en ai faite, je l'ai testée direct sur enfants entre 5 et 9 ans.
Enfants deviennent des cobayes.
Et oui, mais je m'en suis servi de cobaye et j'ai trouvé ça très bien parce qu'en fait, c'est un livre pour enfants à faire lire aux parents.
Donc on voit la vie de Victor, la vie d'Igor. Ils n'ont pas du tout la même vie en dehors de l'école.
Jessica Bogdanov ou...
Non, rien à voir. Ils sont beaucoup plus mimi. Et ils sont beaucoup plus petits aussi. Donc on les voit en salle de classe. Ils sont amis au point de partager les punitions. Si un se fait punir, l'autre va faire la même bêtise pour avoir la même punition. Ils partagent leurs premiers mots sur les filles. Et ensuite, quand la journée d'école est finie, donc là, ils sont les meilleurs amis du monde. Ils continuent à être les meilleurs amis du monde, avoir pour objectif de se retrouver le lendemain. Et puis, Victor, lui, il part avec sa nounou le soir, qui va lui acheter des glaces, un billet de manège. Et Igor, il part récupérer ses petits frères et sœurs, parce que ses parents sont au travail. Et il passe devant la boulangerie où il y a Victor, mais il baisse les yeux. Et il y a un moment où c'est très fort, Victor passe devant une grande affiche publicitaire où il y a de la nourriture, et il s'énerve et il part en colère parce que c'est son père qui dessine ses affiches et son père est jamais là. Et Igor, lui, avec ses petits frères et sœurs, il dit « Arrêtez de regarder ces affiches, ça va nous donner faim ». Donc, et tout le long du livre, on voit très vite, avec l'œil d'adulte, que Victor il a une condition de vie sociale beaucoup plus favorisée que Igor. Et bon, moi, je l'avais repéré de suite, avec les images ou autres, et je le disais à ma fille, elle s'amusait chaque fois, elle me disait « c'est le jeu des 7 différences ». Et elle disait, Victor, il a un lit avec des jouets autour, et Igor, il dort par terre, et autour de son lit, il y a les matelas de ses frères. Et comme ça, pendant tout le livre, et à la fin, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'en as pensé? Je trouvais que son avis était plus important que le mien. Elle me dit, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ils sont copains. J'ai dit, oui, mais il n'y a rien qui t'interpelle. Elle me dit, mais ils sont copains, c'est pas parce qu'il y en a un qui a beaucoup d'argent et l'autre qui n'en a pas qu'ils n'ont pas le droit d'être copains quand même. J'ai dit, ouais, mais tu préfères la vie de qui? De Victor, d'Igor? Elle dit, Igor, il a ses frères et sœurs, il a l'air content. Victor, il a sa nounou, il voit pas ses parents, il a l'air moins content. Et elle revenait tout le temps sur le fait que c'est pas parce qu'ils ont pas la même vie qu'ils ont pas le droit d'être copains. Et moi, je butais là-dessus, parce que c'était le message que voulait faire passer le livre. Mais je pense que pour des enfants, c'est évident.
Ça n'a aucun sens.
Ils en ont absolument rien à faire, en fait, de ça. Et le livre est très bien fait parce que c'est ce message-là qu'il veut faire passer aux enfants. Mais je crois que les enfants le savent. Ils n'ont pas besoin qu'on leur, dise, Victor et Igor, ils n'ont pas la même, j'allais dire, aisance financière, mais ils peuvent être quand même les meilleurs amis du monde. Et le message passe bien. Mais pour les enfants, je pense que c'est logique.
Oui.
Il n'y a pas à le dessiner, il n'y a pas à l'écrire, c'est une évidence. Donc,
du coup, quel intérêt ?
De le rappeler quand même, puis d'en discuter aussi, parce que très vite, ça va arriver. Moi, je l'ai testé sur ma fille, donc elle a un CE1, elle a 7, elle va avoir 8 ans. C'est, pour l'instant, pour elle, c'est naturel, mais très vite, ça va disparaître. Un jour, elle va rencontrer ou quelqu'un qui aura beaucoup d'argent et qui va lui dire « Oh là là, mais toi, tu partages la chambre avec ton frère. »
Son futur mari.
Peut-être, ou peut-être quelqu'un justement qui dira « Oh là là, t'as de la chance, toi t'as quand même une chambre avec ton frère et vous vivez pas tous dans la même pièce ». Enfin, à un moment donné, quand elle va grandir, elle va être confrontée à ça et je me dis que de l'avoir lu ou de l'avoir, ça apporte un plus de dire « Oui, la différence ça existe, mais je me rappelle quand j'ai lu juste à côté de moi aux éditions La Joie de lire, ça n'empêchait pas Igor et Victor d'être les meilleurs amis du monde ». Donc effectivement, si...
Est-ce que vous avez vécu ça, vous étant jeune, d'avoir des amis de classes sociales différentes, très marquées.
Oui. Moi, j'avais pas d'amis.
Toi, Pauline ?
Oui, moi, beaucoup, ouais. Ouais. Oui, une de mes meilleures amies. Moi, mes parents sont d'un milieu assez aisé. Ma meilleure copine, c'était pas du tout le cas.
Elle s'appelait Di. Lady. Di, on l'appelait, je sais pas pourquoi. Vous voyez moins vers la fin.
Moi j'avais, mais je jalousais pas en fait. Moi j'étais super fière de ma condition de fille d'agriculteur qui récupérait les affaires de ses grandes sœurs. Enfin, je pense que au fond de moi peut-être j'en étais frustrée, mais j'en ai fait une effort.
Hein.
Non, mais non, pas. C'est cher les gros tracteurs. Non, mais voilà. Après, ça dépend aussi. Je pense comment les parents t'éduquent. Si t'es ou d'une famille aisée, est-ce qu'ils t'incitent à le mettre en avant, ou si t'es d'une famille moins aisée, est-ce qu'ils en sont frustrés, ou est-ce que justement ils en tirent une force. Enfin, je pense que ça dépend des parents que t'as. Enfin.
Oui, tout est question d'éducation.
Voilà. C'était pas la lutte des classes à la maison, quoi.
Non, voilà. Moi, je sais que je râlais un peu quand je voyais mes copines avec les nouveaux stylos plumes machin à la rentrée et le nouveau cartable et machin, mais ça m'a
pas. Est-ce que c'est pas la même chose aujourd'hui avec les fringues?
Si, mais c'est ça. Ah bah
si, oui, aussi, clairement.
Mais ça sera toujours la même chose. Hein. Ça
mais si,
jamais,
si tes enfants, je trouve.
À part en Corée du Nord, t'as les mêmes fringues.
Alors ça s'appelle la mixité sociale. Hein. Et en plus, il faut le garder, quoi. Il ne faut pas des enfants qui ont un établissement scolaire pour eux de nantis, puis à côté, les ouvriers ou les gens qui ont moins de moyens aller à l'école des pauvres. Quoi, hein. On a bien combattu tout ça et que la mixité sociale, c'est une...
Mais je pense, oui, comme tu disais, que pour les enfants, il n'y a même pas de questions qui se posent. C'est, que...
c'est naturel.
Oui, c'est plus à l'adolescence après.
Ouais, que je pense après. Ouais. Mais c'est bien des petits, je trouve, de pouvoir l'évoquer avec les enfants. Et le livre peut apporter un petit plus en disant, voilà, si un jour t'es confronté à un copain ou qui a pas d'argent. Ou, moi, j'avais dans mon école une fille qui avait vraiment pas d'argent et je sais que je m'étais battue pour qu'on puisse faire une espèce de collecte de vêtements, mais tout en douceur aussi, pour pas qu'il y ait, tiens, ben elle a pas d'argent, tout le monde y donne les habits, donc on l'avait fait de façon beaucoup plus subtile et sans aller dire après, ah, t'as vu, c'est mon pull que tu portes. Voilà. Après, je pense que c'est une question d'éducation de, ben, des parents. Il y en a toujours qui voudront que leurs enfants...
Je veux pas ton pull.
Mais si, je l'ai lavé il y a un mois.
Bah, la petite, elle pleurait. Dit, pas son pull.
Je peux être pauvre et avoir la tuberculose.
Ton pull en jacquard, j'en veux pas, quoi. Ouais. Ou en mohair, tu sais, il n'y a plus de mohair dessus.
Allez, très bien. Rappelle-nous, Valérie, le livre.
Ça s'appelle « Juste à côté de moi », c'est aux éditions La Joie de lire.
Alors c'est marrant parce que l'illustration fait penser un peu aux imageries d'Épinal, en fait, qu'on retrouve. C'est un type d'illustration qui est très ancien et qui date des années 50, ce style-là, voilà,
de dessin. J'avais lu un petit peu le dessinateur, a priori, c'est des superpositions de couleurs, c'est des dessins qui sont faits sans encre noire. Après, les érudits apprécieront, moi j'ai rien compris.
Ok, super. Allez, je présente rapidement un livre qui s'appelle Machin Truc Chouette par Véronique Joffre et Hubert Benkemoun aux éditions Rue du Monde, des éditions qui sont chères à notre amie Héloïse. Donc, c'est un livre qui est sur la différence, sur l'intégration. C'est un peu un livre qui fait écho à notre histoire et qui, malheureusement, est toujours d'actualité. Alors, c'est l'histoire de Massi Cholialoa, qui est venu d'on ne sait où pour travailler, mais malheureusement, on ne veut pas de lui. Alors, on ne le comprend pas, on ne comprend pas sa langue, on n'arrive pas à dire son nom. On finira par l'appeler Machin Truc Chouette ou Truc Bidule Chouette. On lui trouvera pas de logement, mais du travail, car il sait tout faire, notamment les tâches ingrates, et en plus, il est pas cher. Alors, quand la guerre arrive, eh bien, Machin Truc Chouette, il a qu'à aller défendre notre pays. Après tout, hein, ça le fera travailler, ça le fera voyager.
Cette espèce de feignant.
Voilà, ce feignant. Et quand il rentre de la guerre et qu'il a une main en moins, eh bien, il sera payé à moitié moins, hein, parce qu'il fait moins de tâches. Alors, qu'est-ce qui se passe? Machin Truc Bidule, il veut faire venir sa famille maintenant, mais pourquoi il se sent chez lui? Parce qu'il a labouré notre terre à notre place, qu'il a construit nos maisons? Ben, pas question. Alors finalement, Machin Truc Bidule partira, personne ne le regrettera, à part le petit Gaspard qui aimait bien ses chansons et ses histoires d'ailleurs. Mais le petit Gaspard, il faut avouer qu'il n'est pas très futé. Alors, c'est un album pour ceux qui viennent d'ailleurs, ces immigrés qu'on sait faire travailler, mais si mal intégrés à notre communauté. Donc, c'est un peu une fable sans phare pour lutter contre ce réflexe de repli sur soi, quand on ne se connaît pas. C'est un très beau livre, c'est des couleurs pastel un peu, des illustrations de Véronique Joffre, donc avec des découpages un peu géométriques. Ce colosse au pied d'argile s'agenouille devant les doigts des donneurs d'ordre, des accusateurs. C'est très beau visuellement, c'est très simple. J'ai tout résumé dans l'histoire, donc il n'y a rien à cacher. C'est un livre pour les enfants. C'est vraiment voilà, l'histoire de la France des années 60, 70, 80, de ces fils d'immigrés. C'est l'histoire de la France qu'on connaît maintenant avec la fuite de migrants. Et on se rend compte qu'au final, on en est au même point 50, 60 ans après avec ce repli sur soi. Quand je dis on en est au même point, je parle de pas de nous, mais je parle de ce qu'on entend sur les événements actuels, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, des dernières élections, des derniers partis qui montent au pouvoir. On se rend compte finalement que rien ne change et que c'est toujours l'histoire se répète et on pourrait dire malheureusement. Ouais.
Ouais, malgré l'éducation, c'est étonnant.
Voilà, donc. C'est bien, ça nous fait pas réfléchir.
C'est pour quelle tranche d'âge
hein? Ça va de...
On dirait plutôt 6-7 ans, non?
Ouais, 6-7 ans, mais je pense qu'on peut le même faire lire moins, même à des jeunes adolescents qui ont oublié un peu ce que c'était que l'ouverture
aux et les illustrations plutôt sont pas destinées à cette tranche d'âge-là, mais c'est vrai que c'est pour les plus petits quand même.
Oui, voilà, c'est pour les plus petits. Ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement... Ah ouais, c'était notre histoire des années 60, 70, 80. Ah, mais c'est notre histoire des années 2000, 2010, 2015. Et on se rend pas compte, on n'évolue pas, quoi.
Même si la France est encore plus brassée qu'avant, il y a beaucoup plus de mélange, quoi. Ouais. Mmh.
Ouais. Moi, ce qui me rend triste, en fait, là-dedans, c'est que quand tu
c'est très pessimiste quand même.
Tu vas vendre, enfin, je me dis, je prends l'exemple d'Héloïse qui est dans sa librairie, le parent qui va offrir ça à son enfant. Je pense qu'il est déjà convaincu quelque part. Celui qui
celui qui justement n'est pas convaincu, l'achètera pas.
Ouais, voilà. Et je alors c'est pour ça là, je me tourne vers ceux qui ont un pied dans l'éducation et qui côtoient des jeunes justement où il n'y a pas de lien de famille. Je pense que c'est par là qu'il faut que ça passe, parce que ton gamin, si toi tu es facho, ton gamin il sera facho et tu vas pas lui acheter machin truc chouette. Par contre, à l'école, machin truc chouette, ça peut être un livre qui va être dans la bibliothèque et que le gamin va pouvoir lire pour se faire un peu sa propre opinion, ou pour se laisser justement une porte ouverte à la fermeture d'esprit de ses parents pour pouvoir se dire, ok, eux ils aiment pas les immigrés, ils disent qu'ils nous piquent le boulot, qu'ils nous piquent notre air et qu'ils nous piquent notre herbe, mais j'ai lu machin un truc chouette et finalement c'est peut-être pas vrai, ou c'est peut-être pas exactement comme mes parents le pensent.
En fait, il faudrait obliger les gens à faire un génotype obligatoire et puis à regarder
de plus reproduire.
Non, mais c'est pas ça, parce qu'il existe une exposition qui s'appelle Racisme au microscope, qui est très très bien fait, en fait, qui commence par l'eugénisme, par tout ça, et qui finit en fait par un miroir. Alors on se regarde à la fin de l'expo, donc ça nous parle de tout ça, des différents peuples, etc. Et puis à la fin, on se regarde dans le miroir, on a une feuille et on note et on coche les différents traits de notre visage. Le nez, la forme du nez, la forme des yeux, la forme des sourcils, des oreilles, de la bouche, etc. Et ensuite on regarde au verso ce que ça donne. Et en fait on s'aperçoit que les gènes qu'on a notés, en fait, enfin les phénotypes,
caractéristiques,
les phénotypes, en fait, sont traduits par des gènes qui viennent de myriades de peuples.
Eh ben oui.
Et même si on s'appelle Marcel Dupont depuis 10 générations, on s'aperçoit qu'en fait on a un génome qui est tellement multi-ethnique, très très varié, qui vient du monde entier, en fait, même si on est toujours resté en France. Et du coup, que cette notion de race, cette notion de différence, en fait, n'existe pas. Voilà. Et on devrait peut-être commencer par ça, quoi. Essayer déjà de remettre cette notion de race, etc., aux oubliettes, quoi. Et puis repartir sur des bases un peu plus simples et moins.
Absolument, Nico. Valérie, tu as un livre qui fait.
Ouais, qui fait un peu écho à celui-là. Je le représente pour Héloïse, puisque hier, quand elle a su qu'elle pouvait pas venir à l'émission, elle m'a demandé de bien vouloir me faire porte-parole de ce livre. Alors c'est un tout petit livre, en fait, qui a été édité donc par la CIMA. C'est un petit livre qui est à 3 euros et dont l'ensemble des bénéfices est intégralement reversé donc à la CIMAD, donc pour venir en aide aux réfugiés.
Rappelle-nous la CIMAD, ce que c'est.
C'est une association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile.
D'accord. Voilà.
Et donc en fait c'est un petit livre dont la préface est écrite par Daniel Pénac. Il y a des petites illustrations de Serge Bloch, mais la préface, donc Pénac va décrire un petit peu son point de vue sur qu'est-ce que l'immigration aujourd'hui, et après ils prennent les lettres de réfugiés pour écrire un texte avec le R, le E, le F, le U, et ça explique aux enfants un petit peu qu'est-ce que c'est le réfugié. Et c'est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est papa, maman vous montre des images des réfugiés à la télé, avec des fois des connotations un peu négatives. Et ils relativisent.
D'ailleurs, rarement de réfugiés, de migrants.
Oui, de migrants, oui, déjà, pardon. Oui, justement, de migrants à la frontière. Déjà. Il explique un petit peu qui ils sont, qui ça pourrait être. D'arrêter aussi de les voir comme une masse, en fait, de personnes, mais qu'on revienne à l'être humain. Et justement, au départ, il dit, on parle d'exode, de masse, de horde, de déferlement, de multitude, d'invasion. Et on voit plus que le groupe, et en fait, on voit plus l'individu. Et après, ils ramènent tout le monde qui dit oui, mais on peut pas les accueillir parce que pas la même religion, pas la même culture, pas les mêmes coutumes. Et puis c'est une menace pour nous, les travailleurs, pour eux, les chômeurs, c'est une menace pour notre identité. Enfin, et là, il dit bon, mais stop, maintenant on arrête. Ils sont combien? Ils sont 500 000, ils sont 1 million. Nous, on est combien? On est 66 millions en France. Donc le prorata de dire je peux pas accueillir un réfugié par personne en France, ça représente quoi? Par personne en Europe, ça représente quoi? Pour dire que il faut arrêter d'imaginer que si on ouvre les frontières, que ce soit la France, l'Allemagne, enfin tous les pays, finalement ça fera pas une c'est pas une invasion barbare, quoi. C'est euh,
c'est juste quelques personnes et qui fuient vraiment. Et c'est pas une masse, c'est pas tous les habitants d'un pays, c'est des gens vraiment qui fuient. Et qui fuient, c'est pas ils préparent leur bagage et ils partent. Et ça, il explique dans sa préface. Et après, donc c'est peut-être un peu compliqué pour les enfants à le comprendre. Et après, c'est, comme je disais, par lettre, donc le R de réfugié. Qui sont les réfugiés? Il dit dans le mot réfugié, il y a fuir. Il doit fuir parce que... Et là, c'est un discours qui est tout à fait adapté aux enfants.
Quel âge, les enfants?
Moi, je vais le... Bah, du coup, elle me l'a prêté, mais je vais l'acheter. Je vais lire à ma fille parce qu'on a déjà abordé le sujet, mais je pense après CM1, CM2...
Il faut qu'elle se gère un petit peu, quand même.
Ouais. Oui. Mais après, 6 ans, ça t'empêche pas de le lire avec
7 ans, tu peux démarrer, ils comprennent. C'est des concepts, après. Hein. Ouais. C'est le plus délicat, là, c'est les concepts, quoi. C'est de comprendre pourquoi on en est dans telle situation, mais c'est des situations qu'on a déjà vécues, quoi. On a eu les Hmong dans les années 70, 120 000 Hmong en France. On a eu tous les réfugiés après-guerre d'Algérie. On a eu...
On a eu les Bretons en Lozère un peu plus tard.
On a eu les Tchétchènes en Lozère. On a eu beaucoup de gens, en fait. Et aujourd'hui, ils sont où tous ces gens-là? Ben, les trois quarts, ils sont intégrés à... Pas assimilés, comme on peut le dire dans des discours assez fascisants. Ce qu'on entend actuellement, parce qu'il y a une pré-campagne électorale. C'est ça. Qui est assez grave d'ailleurs dans le choix des mots, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut s'attacher aux mots. Ouais. Les mots, c'est important, véhicule des idées, des concepts, et que souvent on fait pas attention.
Là, c'est ce qu'il disait. Il disait on crème, mais il dit les personnes qui quittent leur pays, c'est pas par choix, c'est par nécessité pour survivre. Et il dit il y a ceux qui vont vouloir rester après. Mais il dit, il faut pas non plus imaginer que tous vont rester. En plus, il le dit sans aucun racisme, mais je retranscris sans aucun racisme, mais c'est que certains, quand la guerre chez eux sera finie, auront envie aussi de repartir chez eux.
Parce que c'est chez eux.
Moi, je pense que si demain je vais fuir dans un pays très différent du mien, je sais pas si j'aimerais y rester une fois que la paix serait revenue dans mon pays d'origine. Enfin, on sait pas. Et ça, il le dit. Et puis, il dit, c'est, là, aujourd'hui, on a peur parce que c'est des nouveaux pays, finalement, des personnes de nouvelles cultures qui viennent, mais on avait ces mêmes peur quand on a eu ce que tu disais d'autres immigrations, et finalement aujourd'hui
en fait,
notre copain chinois c'est le même
Ce dont on a peur, c'est du communautarisme en France, c'est-à-dire on a peur que des communautés entières se reconstituent en France et viennent bafouer le droit, viennent bafouer la religion locale, viennent bafouer c'est toutes ces pratiques et qui fait que parce qu'on l'a vécu par le passé on est en train de fantasmer là-dessus. Après, c'est sûr qu'on peut retrouver du communautarisme, mais c'est à nous de le gérer. Et c'est à nous de faire en sorte que ce communautarisme soit partiel ou en tout cas soit positif pour la société française. Et pas qu'on refasse comme on l'a fait dans les années 75 ou 70 des ghettos, quoi. Donc, mais si on ne traite pas comme ça et on est, nous, en train de l'expérimenter, on peut en parler, hein, c'est quand même d'une richesse. Humainement, c'est d'une énorme richesse. Même pour les enfants. Moi, j'en fais l'expérience, pas tous les jours, mais pas loin. Et je me dis que quand même, ce que vivent ces gens-là... Alors au début, je me posais les mêmes questions. Qui ils sont? Mais ils n'ont pas les mêmes habitudes alimentaires. Certes, ils n'ont pas la même façon de concevoir les choses que nous, le même rapport au travail, etc. Puis finalement, je m'aperçois que tout ça, c'est franchement des on-dit, quoi.
C'est des prétextes aussi, des fois, à pas ouvrir la porte.
Et que ça repose sur rien, parce que c'est pas vrai du tout. Ces gens-là s'adaptent énormément à leur environnement. Ils veulent bien faire, notamment apprendre la langue, par exemple. Ils ont une capacité d'apprentissage. Pourquoi? Parce que se faire comprendre, c'est essentiel, la communication. Et même si on a des smartphones, des traducteurs, des tas de trucs, ça n'empêche pas qu'il faut maîtriser la langue. Et qu'ils ont une envie d'apprendre, et en quelques mois, ils apprennent le français, qui est une langue très très difficile et complexe. Et ça, déjà, ça prouve bien qu'ils sont dans un schéma d'intégration, quoi. Voilà. Et puis, tout ce qu'on peut partager avec eux, qui est d'une richesse extraordinaire. Et pour finir, simplement de dire que quand on vit avec eux, finalement, on s'aperçoit qu'ils ont les mêmes préoccupations que nos jeunes quand ils sont jeunes ou que les plus vieux quand ils sont plus vieux. Ils veulent un petit peu de travail, gagner un peu d'argent, pouvoir s'alimenter, se nourrir, se vêtir. Et appeler leur famille qui est restée au pays, quoi. Et en fait, c'est des préoccupations extrêmement simples et saines de tout être humain, et quel que soit le pays où on habite, quoi. Et qu'il n'y a pas d'envie de venir envahir un autre pays et d'y imposer un dictateur religieux ou tout ça, quoi. Ça n'a rien à voir avec tout ça.
Allez, une chanson qui fait écho à l'immigration avec Akhenaton. C'est pas Akhenaton Burger, c'est Metekhenat.
Akhenaton Migration.
Et on revient avec toi après.
case claire, case sombre. L'histoire du métèque et mat et du jeu d'échecs. Je suis un 100% métèque, importé d'un pays sec. Jadis vulgaire, pion, pas cette pièce maîtresse du jeu d'échecs. Et si l'obscurité de ces mots encombre, c'est Dieu qui l'a voulu, j'ai dû trop jouer sur des cases sombres. En fait, mon équipe se respecte, c'est tout. Pas de pion, pas de roi, pas de reine, que des fous. Tous partis sur un échiquier pourri. 20 ans plus tard, ils ont atterri sur du lapis-lazuli. Ils disaient ce sont des ramasseurs d'oranges. Des naïfs, mais pas un faisait de marque devant des calibres et des canifs. La volatilité et mon rôle pas étonnant venant d'un napolitain d'origine espagnole. Les surnoms dont Jacob reflétait bien l'époque. Je suis l'un de ceux qui te l'a nommé nègre de l'Europe et j'en suis fier. Peut-être sommes-nous trop coléreux, mais le respect est sacré, on n'appelle pas nos parents des vieux. Cousin, si tu changes de camp, mon pauvre, nous te rappellerons le temps où tu avais encore la morve. Elle te sera racontée comme une fable grecque, l'histoire des métèques, maths et du jeu d'échecs. Nous avons subi la loi des visages pâles. Karmat et le métèque pour 10 balles. Accompli les tâches et les travaux les plus sales. Karmat et le métèque fascinés par le mirage des idéaux de modernité. Nos peuples se sont acculturés, c'est pourquoi la fierté demeure toute seule dans nos sacs d'un métèque et mat. On dit que les jeunes ambitieux qui sont les seuls de ces quartiers gris à s'en être vraiment sortis. Peut-être est-ce vrai, mais je préfère évoquer le fait d'être heureux de ce que l'on est petit. On me racontait l'histoire de truands de boss qui pouvaient saigner trois mecs, puis bouffer des pâtes en sauce Scarface. Le film est sorti, puis il a vrillé l'esprit de beaucoup de monde et moi y compris. Tu venais voir chez moi, on te disait intra, intra pana. Bienvenue chez Tony Montana. On nous a fait croire que l'on était des merdes et à force on l'a cru. Le stéréotype a pris le dessus, aucun héros à notre image. Que les truands, l'identification donne une armée de chacal puant. Donc le Medec est un pur produit génétique de réaction raciste et de pays pompe Afrique. Méfiez-vous de l'eau qui dort ou vous dormirez dans l'eau. Inimitié sincère du plus cruel des Tsengaros. De nouvelles pièces arrivent, la défense éclate. En échec par des Medec et maths. Et c'est foutu pour toi mon gars. Nous avons subi la loi des visages pâles. Car maths et le Medec pour 10 balles, accompli les tâches et les travaux les plus sales. Karmat et le métèque, fascinés par le mirage des idéaux de modernité. Nos peuples se sont acculturés, c'est pourquoi la fierté demeure toute seule dans nos sacs d'un métèque et mat. Fini le temps où les basanés étaient des esclaves. Les pauvres larves sont sortis de leurs enclaves. Les uns ont engendré une génération d'ingénieurs, les autres des crapules attendant un monde meilleur. Mais les aspirations sont les mêmes, fonder un foyer, trouver une femme qui les aime sans problème. Mais l'oppression de la société est telle que riche ou pauvre ils pèlent et en gardent des séquelles. Numéro 7 la condamnée, pourtant cette idée roule. Être agressif de nos jours devient de plus en plus cool. Tu chahutes fort dans la masse, mais que feras quand une équipe de fondus te tombera dessus. Les valeurs changent, les gens s'en foutent. Pourquoi faut-il que le respect s'enseigne avec les coups? Ou un de plus donné est une victoire. Mais j'opte pour nos profils bas à la manière de mon ami appelé noir. Tu dis ne pas avoir de scrupules, tu mens. Et tu peux croire un des ex-prisonniers de l'aimant. Et si je retombe quand tu t'emploies à tes coups bas, il y aura toujours un métèque pour s'occuper de toi. Nous avons subi la loi des visages pâles. Karmat et le Medec pour 10 balles. Accompli les tâches et les travaux les plus sales. Karmat et le Medec fascinés par le mirage des idéaux de modernité. Nos peuples se sont acculturés, c'est pourquoi la fierté demeure toute seule dans nos sacs d'un Medec et mat.
Allez, de retour après cette très belle chanson d'Akhenaton tirée d'un film. Ce film, c'est L'aimant. L'aimant, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Nico, Rosa,
c'est une ville où il y a une course de voitures, L'aimant.
Non, c'est un lac.
Pauline demandait.
Ah, pardon.
J'ai cru que tu allais me dire un truc sérieux. Mais...
Tu sais qu'Héloïse nous écoute, elle est en train de transpirer, se dire non, mais j'abandonne, ils sont trop forts. Ah, elle fait demi-tour, là.
Non, c'est une petite blague pour lui faire un clin d'œil pour son stage de blague.
Ah, d'accord.
Nico. Rosa Luxembourg, non aux frontières. Donc, on est toujours dans la même thématique. Alors, en fait, Rosa Luxembourg, bon, vous connaissez ce nom-là, non?
Oui.
Ça vous dit quelque chose?
Oui, j'ai entendu. Ouais.
Très peu, moi.
Très peu, non, frontières. Alors, Rosa Luxembourg, elle est née en 1871.
Ah, je t'ai pas dit.
Elle est morte en 1919, donc...
T'étais pas née.
Voilà, t'étais pas
née. Pour ça, je la connais pas.
En fait, Rosa Luxembourg, c'est une militante théoricienne marxiste, donc communiste à la base, hein, socialiste communiste, et révolutionnaire allemande. Donc, qui est née en Pologne, en fait, en 1871, et qui a été assassinée en 1919, pendant la Révolution allemande. C'était la révolution des spartakistes de Berlin. Voilà, bon, en fait, il faut savoir que Rosa était une figure de l'aile gauche de l'internationale socialiste et fidèle de l'internationalisme. Elle s'est opposée à la Première Guerre mondiale. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'elle a été exclue à l'époque du Parti social, voilà, qu'on appelait le SPD, et elle cofonda la Ligue spartakiste. Aujourd'hui, on parle aussi de luxembourgisme pour parler de ses théories. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans les théories politiques.
Moi,
voilà.
Je me suis toujours posé une question sur elle. Son lieu de naissance, je pensais que c'était un nom d'emprunt, Rosa Luxembourg. Mais c'est sa vraie identité.
Mais ça s'écrit Burg.
Burg, oui, oui, mais voilà. C'est malgré tout, c'était le ouais. Ça me, j'étais persuadée que c'était un.
Mais peut-être.
Un pseudo, mais a priori pas.
Non. On a toujours fait appeler comme ça. Alors, en fait, c'est une petite. Elle est née juive, hein, qui est dans cette Pologne, donc catholique et antisémite.
Et Burg de Bourg.
Voilà. Et Rosa Luxembourg, donc, décide très vite de sortir un peu du rang, quoi. Elle est très contestataire. Et son idéal, en fait, c'est la révolution et l'avènement d'un monde où personne n'opprimera plus personne. Bon, avant 1914, donc de Varsovie à Paris, de Zurich à Berlin, la jeune communiste inconnue devient une figure politique du premier plan. Pourtant, la veille de la Première Guerre mondiale, la petite Polonaise devenue allemande, authentique citoyenne de l'humanité entière, proclame que jamais les Allemands ne brandiront les armes contre leurs frères de France et d'ailleurs. Ben, bien sûr, elle se trompait malheureusement.
Elle a pas fait médium.
Donc, ce petit bouquin, en fait, qui a été écrit par Anne Blanchard, en fait, c'est le regard de Mimi, en fait. Mimi, c'est son chat, plutôt sa chatte de gouttière, et fidèle compagnon, qui nous livre un petit peu un témoignage étonnant sur le parcours de cette grande figure.
Donc chatte elle,
ouais.
D'accord.
Donc elle nous conte les faits des débuts des années 1950. Par exemple, ceux qui concernent le premier président de la RDA, William Pick, ce qui suppose que notre chat soit au moins quadragénaire.
1950.
Non. Non, mais le chat, tu sais, les dates.
Oui, il vit un peu plus. Ouais. C'est peut-être la troisième vie du chat.
Tu peux multiplier
1900...
par
16.
Non, comme tu disais qu'elle était décédée en 1919, c'est ça. C'est pour ça, c'est. Voilà,
oui,
j'ai pas compris un truc.
C'est l'histoire du chat.
Ah, mais donc il a survécu à Rosa Luxembourg.
Il a survécu à Rosa Luxembourg et dans les années 50, ouais. Il raconte.
D'accord. Voilà. Ah, j'y étais pas du tout. Je comprenais pas pourquoi.
Et c'est pour ça que c'est un peu particulier. Enfin, la façon dont ça a été
c'est bizarre,
amené, hein. Peut-être.
Amené dans ce bouquin,
ouais.
C'est un peu.
Parce que s'il a connu en 1915 et qu'il raconte en 1950,
ça veut dire
qu'il a au moins 35 ans.
Un âge de chat fois 6.
Ça veut dire qu'il est quadragénaire, le chat.
Non, mais il a peut-être plusieurs.
40
vies.
Ans. Et c'est pour ça que c'est. C'est pas foncièrement crédible. C'est-à-dire que le fait de passer par l'idée d'un chat qui va raconter, en plus, c'est déjà quelque chose qui est très utilisé, quoi, qui est pas nouveau.
C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'elle aurait dit, Rosa Luxembourg, si
c'est
elle
son
avait
histoire.
Pu,
voilà. Elle raconte son histoire 40 ans après, en gros. Qu'est-ce qui s'est passé, puisque c'était,
Sa vie est super intéressante, mais là, quel intérêt il y a de le raconter
en 1950
ouais.
Par un chat. En 1950, par un chat. Bon,
le chat, pourquoi
moi,
pas,
le seul
pour
intérêt que j'ai
côté,
vu. Non, mais même, j'ai pas trouvé ça vraiment intéressant, ce parti pris. J'ai pas adoré du tout. c'est difficile à imaginer. Puis comme Rosa, enfin c'est même pas un roman parce que c'est quand même un genre de documentaire. Voilà, Rosa a existé, ce chat, on ne sait pas s'il a existé, peut-être. Enfin, puis on s'en fout quelque part. Quoi. Du coup, on se focalise un peu sur ce personnage de Mimi. Qui nous raconte une histoire 50 ans avant. J'ai trouvé une histoire un peu compliquée qui amène pas grand-chose, si ce n'est le recul historique. Mm-hmm. Voilà. Et aujourd'hui, donc avec de nouvelles théories, parce qu'en fait, la théorie, c'est que ce personnage, donc William Pick, qui est en fait le premier président de la RDA, ce serait lui qui aurait été normalement arrêté avec Rosa Luxembourg et un autre personnage, dans une chambre d'hôtel à Berlin et qui aurait été assassiné, sauf lui, donc dans cette histoire, qui en fait serait à l'issue de ça devenu président de la RDA parce qu'il aurait monnayé l'arrestation de Rosa pour devenir président de la RDA. Ouais. Donc ça, c'est une théorie. Voilà. Donc il fallait que ça se passe plus tard pour qu'on ait cette analyse là. Voilà. Donc en fait, ce que le plus intéressant dans le bouquin, c'est la position de Rosa et comment elle, sont relatés les faits et comment Rosa se positionne et jusqu'où elle va. Et ce combat qui est quand même énorme pour cette femme, quoi. Mmh. Voilà. Donc on y apprend beaucoup de choses, quoi, sur les partis, sur la montée du socialisme, sur les théories marxistes, sur voilà. Donc c'est un bouquin où on apprend quelques anecdotes, notamment qu'elle aurait tenté de se suicider à la mort de Jean Jaurès, Rosa Luxembourg, voilà. Ça évoque aussi la prison, parce qu'elle a été pendant longtemps en prison, où elle a écrit beaucoup, beaucoup de bouquins, notamment sur la nature. Donc c'est une lecture qui est assez plaisante, qui est assez fluide, un texte assez bien écrit, c'est voilà, pour des ados, quoi, des grands ados. C'est intéressant parce qu'on apprend quand même assez rapidement, parce que c'est un tout petit bouquin, hein, voilà, que Rosa, en fait, faisait de l'altermondialisme bien avant tout le monde, et que ça, c'est quand même pas mal. Alors, Anne Blanchard, elle, c'est quand même quelqu'un qui est auteur d'une encyclopédie des rebelles, insoumis et autres révolutionnaires. Donc, elle est dans cette veine, un petit peu, de ce qu'elle a déjà fait sur les encyclopédies.
Oui. D'ailleurs, il y a le chien de Kurt Cobain qui raconte un moment sa vie juste avant. Non, vas-y, continue.
On en avait déjà parlé, il me semble, d'Anne Blanchard.
Donc, dans cette encyclopédie, en fait, elle raconte, elle, la vie de 25 de ces grandes figures qui ont voulu changer le monde. Mais c'est vrai que parmi ces 25, elle a beaucoup de tendresse. Alors, je ne sais pas si c'est par mimétisme ou si c'est par rapprochement idéologique. Beaucoup de tendresse pour Rosa Luxembourg. Donc de cette femme qui a mis toute sa vie au service d'une cause qu'elle pensait juste. Donc c'est un roman documentaire, roman par le chat, quoi. Voilà. Qui est un petit peu un hommage à la vie et
pas emballant,
à l'admiration.
Pas emballant.
Non, moi ça m'a pas hyper emballé. Après, parler de Rosa Luxembourg aujourd'hui, je pense que c'est intéressant quand même.
Ouais, mais
à des ados,
de la personne,
voilà.
Oui, mais
il doit y avoir d'autres livres, j'imagine.
Il y a beaucoup de documentaires.
Il n'y a pas une BD qui avait été faite, une espèce de biographie en BD qui avait été faite sur Rosa Luxembourg. J'ai l'impression qu'on en avait ou déjà parlé, ou elle avait proposé, Héloïse, qu'on avait fait les biographies justement.
Peut-être. Pour des jeunes qui s'intéressent à la politique, en tout cas, qui s'intéressent à ces fonctionnements-là. Pas beaucoup, mais il y en a. Je pense que c'est un bouquin à lire. Voilà. Parce qu'à la fin, il y a toute une partie de documentaire qui parle des mouvements de contestation, du libéralisme économique, voilà, qui parle de ce qu'est aussi le marxisme et le communisme. Donc c'est pas mal.
Ok, merci Nico. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie?
Hein, non, c'est qu'il est parti au départ avec un livre qui lui plaisait moyen. Et plus il nous en parlait, plus il a trouvé le livre.
Il arrive à se convaincre.
C'est ça, il se
Non, mais parce que. Non, c'est difficile de casser un bouquin comme ça.
Oui, mais c'est pas cassé. C'est que c'est
non,
le parti pris m'a pas emballé. Après, voilà, la vie de Rosa Luxembourg, je pense que ça mérite d'être lu. Parce que voilà, c'est quand même un grand, grand personnage. Et notamment par des femmes. Engagez-vous, s'il vous plaît.
Par tout le monde.
Pauline, est-ce que tu vas réussir à nous convaincre avec ton prochain livre?
Oui, que, pourquoi
est-ce
pas.
Est-ce qu'il t'a déjà convaincu?
Oui, c'était un petit joli livre. C'est « Lettre ouverte à tous les terriens, les enfants prennent la parole », qui a été conçu et coordonné par Alain Serre, qui est le directeur des éditions Rue du Monde, et illustré par Laurent Corvézier. Donc là, pour le coup, on n'avait que des bouquins qui s'adressaient aux enfants. Là, c'est les enfants qui vont s'adresser un peu aux autres enfants, à nous, à leurs parents, à tout le monde. Pour Alain Serre, dans préface, il nous annonce « Quand les enfants parlent, on les entend, mais on ne les écoute pas souvent. » Alors il les a fait écrire. Il a créé des ateliers dans des bibliothèques, des associations, dans des écoles, dans le monde entier, dans lesquels c'est des ateliers dans lesquels les enfants ont écrit des lettres sur le monde, sur eux, sur l'actualité, sur ce qui les touche, ce qui les concerne. Donc il a choisi 100 enfants. Alors ça fait pas 100 textes parce qu'il y a des textes qui ont été écrits par plusieurs enfants, mais bon, pas mal de petites lettres sur des thèmes. Donc par exemple, on a l'actualité, on a les migrants, on a l'écologie, on a la faim dans le monde. Alors il y a un petit texte que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Sandrine qui dit « Savez-vous qu'il y a toutes les 4 secondes un enfant qui meurt sur la terre parce qu'il n'y a pas assez à manger ? Vous le savez déjà ? Alors pourquoi vous ne répartissez pas mieux tout ce que vous cultivez ? Pourquoi ?»
Oui. Point. Toi, l'adulte, tu peux répondre à Sandrine, s'il te plaît ?
Oui, bah oui. Donc, là, on se dit un peu, il nous interpelle, voilà, avec des petites remarques d'enfants.
Parce qu'il y a le libéralisme, ma petite Sandrine.
Et quand la libéralisme, en fait, on exploite
les hommes pour faire du pognon.
Avec toi, avec le nombre de pâtés que tu t'es mangé, Valérie, à midi, là, t'aurais pu nourrir toute
non,
une tribu.
Non, c'est
quoi.
Celui de Nico, là, qui est là, il fait des tartines, mais sous les yeux, et j'attends qu'il le mange. T'appelle.
Moi, je partage, Valérie.
C'est ça, moi non. Je laisse aux autres, mais personne n'en veut.
Laissez Pauline continuer, s'il vous plaît.
En plus, ça a l'air très intéressant.
Oui, c'est parce que c'est mignon et c'est vraiment des remarques.
C'est à la limite cucu à praline, un peu.
Ben, pas toujours. Il y a des fois, c'est très...
Non, mais c'est naïf, c'est un côté
voilà,
naïf.
Voilà, c'est naïf. C'est des vrais textes d'enfants.
Ouais, ouais, mais c'est des vraies questions.
On les a, je pense, accompagnés dans l'écriture, mais on sent vraiment de la parole d'enfant. C'est pas du faux truc, voilà, ouais. du faux texte d'enfant qu'on a retravaillé à fond derrière. Non, il y a par exemple Norito qui parle de la scolarisation des filles et qui comprend vraiment pas pourquoi le présentateur du journal ne parle pas tous les jours du fait qu'il y a des filles encore qui ne vont pas à l'école.
Ah oui, voilà. Au Togo.
Des petites remarques un peu innocentes. Alors celui-là...
Je m'appelle à ma vie, 13 ans, je ne vais pas à l'école, mais j'aimerais bien apprendre à lire et écrire comme vous. Je suis domestique dans une famille que je ne connaissais pas à Lomé, au Togo. Mes parents sont du village. Et quand Nadège, la petite Nadège, revient de l'école... La fille de ma patronne, qui est au CE1, revient de l'école, elle m'apprend ce que le maître lui a enseigné, mais pas tous les jours. Car si ma patronne nous voit, elle gronde et m'insulte.
Donc c'est, voilà, il y a des...
C'est d'actualité encore. Oui. Moi, je croyais que c'était arrêté, ça.
Il y a de l'actualité, donc vraiment, voilà, des petits textes touchants. C'est à la fois sensé, à la fois... Tu sens qu'ils sont très optimistes, qu'ils ont l'impression que tout peut se régler, que les adultes vont tout régler. Et puis bon, il y a aussi des thèmes vraiment... d'enfants. Ils parlent de leur peluche, de leur doudou, de la maîtresse, de leurs amoureuses. Donc, il y a un peu de tout.
Oh, ils ne peuvent pas faire que se prendre la tête aussi.
Et non, on voit que voilà, c'est vraiment aussi des textes d'enfants. Ouais. Ouais.
C'est un grand format, le livre. Hein.
Ouais,
c'est du format A4. C'est du
A4.
Ouais.
Très illustré aussi. Hein.
Ouais. Ouais, par Laurent Corvézier, il y a quelques photos. Donc, ouais, super touchant. À lire à d'autres enfants, peut-être pour les encourager aussi à écrire, eux. Et à savoir que tous les droits d'auteur sont reversés à l'UNICEF. Donc voilà,
c'est un rugiment de qui fait sa bonne action.
Ouais.
Très bonne chose.
Sur un bouquin à 15 euros, il reverse combien ? À 22,90 euros, il reverse 0,90 centimes d'euros.
Ouais, c'est quoi ? 7%, 5%, je sais pas.
L'éditeur ?
Les droits d'auteur.
Ah, les droits d'auteur ?
5%, peut-être qu'on vient négocier.
L'auteur, peut-être que l'éditeur. Mais j'ose espérer que Rue du Monde aussi reverse ça.
Ouais.
Finalement, il n'y a que le libraire qui
prend. C'est le libraire.
Et le libraire toujours. Et le distributeur, le gentil distributeur.
Et comment tu payes les concerts quand tu vas toutes les semaines en concert ? Ouais. Il faut bien vendre des livres. À conseiller, c'est un livre familial, on dirait,
oui.
Pour lire avec ses enfants ensemble, au coin du feu.
Ouais, des petits.
Édition Rue du Monde.
Si t'as pas de feu.
Toujours. Si t'as pas de feu, mais tu peux aussi.
Ah, ok. Merci.
Merci, Pauline. Valérie.
Oui, c'est moi.
C'est toi.
Ah, j'hésite, entre les deux, mon cœur balance.
De toute façon, tu pourras présenter les deux.
Hein. C'est super. Vous avez eu les meilleurs livres. Hein.
De façon très courte, je vais parler de celui-là.
On joue au ping-pong, je fais de façon très courte
parce que bah, mon livre, ça va vous parler de suite. C'est l'histoire de Monsieur Chocolat, le premier clown noir. Donc vous avez tous été voir le film au cinéma. Vous avez bien sûr tous été plusieurs fois à Albi voir le musée Toulouse-Lautrec et pu apprécier la grande affiche de Monsieur Chocolat, clown noir. Voilà, c'est ça, il y a bon. Non, c'est Toulouse-Lautrec qui avait dessiné le clown chocolat. Donc là, c'est un livre de Chez Rue du Monde qui raconte l'histoire de Monsieur Chocolat aux enfants dont les parents ont refusé qu'ils aillent voir le film au cinéma. C'est ce genre de parents indignes. C'est l'histoire qui est un peu édulcorée, donc du clown chocolat qui était donc un esclave cubain qui s'est enfui de la maison française où il était esclave. Et qui est arrivé à Paris et qui a rencontré un autre clown anglais foutite avec qui ils ont créé les premiers spectacles de clown. Le livre est très mielleux par rapport à la vraie histoire puisque on enrobe un peu l'esclavagisme, enfin des choses comme ça, mais c'est pas mal pour aborder avec des enfants. L'auteur et dessinateur on connaît, puisque c'est Bruno Pilorger, donc il est déjà venu sur M-Lire. On avait parlé un de ses livres, La Grande Vague d'OQC, il y a 2 ans, donc c'est un super auteur. Le livre est bien fait, il y a l'histoire donc pour les enfants, et à la fin de l'histoire, il y a des petits documentaires sur qu'est-ce que c'est l'esclavage, qu'est-ce que c'est que la Belle Époque, qu'est-ce que c'est que la bêtise humaine, enfin voilà. Donc c'est... C'est bien parce qu'il est d'actualité, c'est un joli livre, c'est Rue du Monde, donc encore une fois, ça fait passer un message, mais tout en douceur. C'est pas pas noir, c'est plein de couleurs. Voilà, c'est un livre à lire, notamment pour les enfants qui auraient eu envie d'aller voir le film et qui n'ont pas pu aller le voir.
Ok, merci voilà. Valérie. Allez, je passe vite au mien avec La Cité Babel dans un format tout en hauteur. C'est une cité, c'est une tour. C'est un livre assez drôle, très très original. Voilà, parce qu'à la première page, on découvre l'extérieur de la maison, de cette tour. Alors, il semble que ce soit Noël parce qu'on peut apercevoir un sapin derrière la fenêtre du premier étage. Au deuxième, il y a des étoiles de David collées sur les fenêtres. Au troisième, quelques rouges-gorges et une femme voilée souriante. Et au rez-de-chaussée, c'est l'épicerie Babel de Monsieur Félix. Alors, c'est original parce que c'est plein de... C'est un livre, on tourne des
morceaux de page.
Voilà, attends, je te remets
des
micro.
Des morceaux de page.
Vu que tu as fini de manger. Voilà. On ouvre des morceaux de page et on suit l'histoire donc de ces familles et c'est une explication en gros des religions.
Ouais, ça peut se dire soit par étage. Donc c'est ça qui est intéressant.
C'est ça. Ouais. Soit par étage, soit par
tous les étages d'un seul coup, voir comment les familles évoluent quoi.
Voilà, et c'est surtout différentes saisons. Et en fait, c'est surtout pour expliquer les histoires et différentes familles pratiquantes. Donc il y a un point particulier à chaque étape, une coutume, une fête, une façon de se nourrir. Quant à l'épicerie, elle, l'épicier est athée, mais il reçoit des hindouistes, des bouddhistes. Oui, il est athée. Et il reçoit tout ce monde-là. Et lui, il fête Halloween et Carnaval. Donc on explique en même temps des fêtes qui n'ont aucun rapport avec la religion.
Pourquoi Babel ?
La tour de Babel, Nico. Tu connais pas l'histoire de la tour de Babel ?
Si, je connais, mais je voulais que tu l'expliques. Rapport avec la tour de Babel,
Il est 13h28, je n'ai plus le temps.
T'as 2 minutes pour expliquer la tour de Babel.
Alors, Babel, ville, ville située dans le golfe persique. Non, je sais pas pourquoi la tour Babel.
La tour de Babel, c'est la tour de toutes les connaissances du monde entier, là où il y avait tous les grands manuscrits de toutes les religions, de toutes les races, de tous les peuples.
Elle était où ?
Là où tu as dit. Du côté d'Alexandrie.
Voilà, c'est pour ça, mais c'est un livre
nord de l'Égypte.
C'est un livre intelligent pour expliquer aux enfants ce que sont les religions et quelles sont.
Ouais,
les
non, c'est vachement bien fait. C'est intelligent en tout cas. Le voilà. Bouquin, vraiment. Et puis il est très beau le bouquin.
Et c'est surtout qu'il est très beau. On peut vraiment s'amuser avec des enfants. Bon, c'est 8-9 ans, je pense. 7-8-9 ans.
Ouais, même moins, hein, parce que tu peux faire parler les enfants sur chaque vignette. En fait.
Oui, aussi, ouais. Et donc à la fin, ils expliquent.
Pour les familles, c'est super.
Tous les rangs, chacun a sa doit être libre de pratiquer sa religion, selon ses propres convictions, etc. Ça explique ça à la fin. C'est intéressant.
Ouais, le FN devrait l'offrir à chaque adhérent.
Oui. C'est un livre, déjà. Donc,
oui.
Il faudrait pas trop, quand même.
Non, faut pas se moquer, mais c'est vrai que c'est un bouquin qui serait vraiment à donner à Noël. Ouais.
Oui, mais c'est, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que toi, en tant que parent qui a l'ouverture d'esprit, même si tu as été élevé dans une religion et que tu élèves tes enfants dans une religion, mais avec l'ouverture d'esprit, le bouquin, ça va te faire plaisir de leur offrir, de le lire avec eux, parce que ça va confirmer tes dires. Mais celui qui obtue, qui a décrété que de toute façon, les chrétiens et les musulmans, c'était des gros cons et qu'il y avait que telle religion qui valait le coup, il va pas acheter ce livre-là. C'est ça qui est dur, je trouve, avec les enfants, parce qu'on a lu, on a parlé de livres qui passaient un message aux enfants, mais quand on parle de religion, du vivre ensemble, justement, tu parlais du lien avec le ciment entre les personnes, c'est les parents, on est les premiers acteurs de ça. Ouais. Enfin, si nous, on
les
est,
parents,
on
les éducateurs, parce que t'as les ALSH, centre de loisirs sans hébergement aussi, qui font un boulot là-dessus. Hein.
Ouais, mais ils ont intérêt d'être neutres sur.
Et puis, tu as l'aménagement du rythme de l'enfant. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Le temps périscolaire, voilà, dans les écoles, qui peut être aussi un super moyen d'éducation. Ouais. C'est pour ça que ça a été fait, d'ailleurs. Voilà, c'était la petite parenthèse.
Et tu as aussi des émissions de littérature.
En plus.
Qu'est-ce qu'il y a, Valérie ?
Une minute.
Allez,
en fait. Et en fait, je vais parler d'un livre, je vais faire un petit coucou dans mon livre. Je vais faire un coucou à Monsieur Debré. Pour lui dire tout le mal que j'ai pensé de lui à la lecture de ce livre. Voilà, bim, c'est fait.
Lequel de Bray ?
Celui qui était ministre de l'Outre-mer.
Ils ont tous été ministres. C'est comme les Clinton et les Bush.
Non, pas Michel.
Ah, si, c'est Michel, attends, je vais vérifier. Michel, voilà, c'est Michel qui a été... D'accord. Non, pas ministre, pardon, député de La Réunion. Un livre qui s'appelle « Enfants de l'exil, de l'île de La Réunion à la Creuse ». J'avais espéré quand j'ai lu le livre que ce fût de la fiction. C'est l'histoire de rafles d'enfants qui étaient faites à La Réunion. On raflait des enfants pour les amener en métropole pour repeupler les campagnes creusoises et j'ai appris aussi lausérienne.
À Véronèse et lausérienne, il y avait quand même une agence matrimoniale en Lozère.
Bizarrement, j'ai pas vu écrit Aveyron nulle part. J'ai vu Creuse et Lozère.
Je peux te certifier qu'il y avait à Rodez une agence qui faisait ça. Quoi.
Voilà, mais à la limite, si c'est pour marier des femmes d'un certain âge qui sont majeures, ça ne me dérange pas.
Des petites qu'on faisait venir, qui étaient juste majeures et qui se mariaient avec des agriculteurs.
Parce que là, c'est l'histoire de rafles d'enfants, c'est-à-dire ils arrachaient
du côté de Rodez. Qu'est-ce qu'il y a?
Ils raflaient des enfants délibérément. Donc l'État a raflé des enfants sur l'île de La Réunion qui avait 3 mois, 6 mois, 10 ans. Là, ça raconte l'histoire d'un jeune qui a eu 10 ans quand il est raflé. Son jeu à l'île de La Réunion, c'était fuir la camionnette bleue. Donc la camionnette bleue qui raflait les enfants.
C'est
il a raconté comment il est venu, comment il est arrivé en France, lui qui n'avait jamais quitté son île, comment il est arrivé dans la Creuse avec le mauvais temps qu'il peut y avoir là-bas. Et comment il a survécu, parce que là, moi, j'appelle pas ça vivre, j'appelle ça survivre. Et quand je le lisais, je connaissais pas du tout cette histoire. Je me suis dit, bon, mais ça a dû se passer il y a très longtemps. Et quand j'ai vu qu'il était né ou qu'il était arrivé en Creuse en 1964, j'étais super en colère. Et j'ai trouvé ça honteux, en fait, d'être de cette génération en fait de personnes et de qui ont fait des rafles d'enfants en France, puisque c'est en France, enfin c'est on est censé être des gens qui ont une certaine morale, voilà. Donc et ce livre raconte cette histoire sur les rafles, enfin de cette personne qui a été raflée, il n'y a pas d'autre mot, par la camionnette bleue pour être jeté en France.
Ça raconte sa vie de camp à camp,
quand il y a quelques pages sur sa jeunesse, comment il jouait, comment ils étaient très pauvres. Il disait c'est peut-être une chance finalement, parce que j'aurais peut-être pu encore plus mal tourner que ce que...
Ouais. Et que vient faire Michel Debré là, non ?
C'est lui qui était à l'époque préfet de La Réunion et qui commanditait les... Moi je dis commandité, c'est peut-être pas le terme qu'il faudrait utiliser, mais tu peux pas fermer les yeux sur ce genre de choses. C'est...
Mais là, c'est une accusation là-dedans qui est sur
non,
le
non.
bouquin.
Mais non, parce que justement, lui, après, ça a été romancé, si tu veux. Enfin, c'est l'auteur, là, Ahmed Kalouaz, a romancé un petit peu pour que ce soit facile à lire le propos donc de cette personne qui a été raflée. c'est... il accuse sans accuser, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, j'aurais pu vivre là-bas. Il n'aime pas le fait d'avoir été raflé, parce qu'il a vécu dans une famille au départ qu'il faisait dormir dans une étable. Ça. Non, mais la première famille où il était esclave. Il était ouvrier agricole, enfin esclave agricole, pardon. La deuxième famille où il a été, c'était des gens aimants, manque de chance, qui sont tués dans un accident de voiture, alors qu'il commençait enfin à avoir une vraie famille. Ouais. Et après, il a vivoté, enfin, il était plus grand, donc il a travaillé pour s'en sortir. Mais il le dit, on sent qu'il a ce manque d'avoir été raflé, mais d'un autre côté il est hyper optimiste en disant voilà, peut-être j'aurais moins bien vécu.
L'histoire finit quand alors de cet enfant à la fin de sa vie?
Je peux pas le dire, parce que si jamais il y en a qui veulent le lire, il y a quand même une fin particulière, mais c'est quand il est très très adulte. Ouais.
D'accord, voilà. Okay,
mais Ahmed Kaloise, on a présenté un autre livre de lui, La chanson pour Sony, vous vous rappelez?
Non, de Sony Hensher.
Non, la chanson pour Sony.
Non,
c'est un bouquin qu'on a présenté dans une émission.
Parlé, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, c'est toi
qui racontait l'histoire de Mohamed. Allez.
Ça, c'est un livre pour Pauline, normalement, le thème. Ouais, hein, oui, qu'est-ce qu'elle a fait, Louise?
Je ne sais pas. Non, en plus, c'est moi qui ai voulu le prendre parce que
l'histoire est à creuser quand même.
C'est ça, je vais creuser parce que du coup, quand j'ai vu que ça s'était passé aussi en Lozère, bon, j'ai caché les yeux sur Aveyron, forcément. Mais je suis étonnée, vu la quantité de personnes qui ont été déportées, parce que pour moi c'est ça, de pas avoir dans mon entourage, ou en Aveyron ou en Lozère, plus de personnes originaires de la Réunion. Ouais.
Enfin, la Réunion ou des Antilles d'ailleurs, parce qu'il y a eu plus que la Réunion.
Là, en l'occurrence, il parlait de la Réunion, donc je.
Valérie,
je pas...
questionne tes parents un peu plus. Peut-être qu'ils te cachent des choses.
Je bronze rose,
Valérie,
donc.
Valérie, d'où tu viens? Fais un génotype, Valérie.
Allez, cette émission est terminée. Valérie, le prochain thème, c'est quoi, toi qui as vu Héloïse pour la dernière fois?
Eh bien, écoute, elle devait passer ce matin, nous amener les livres à 48 FM pour dans 15 jours.
D'accord, mais elle a dû oublier.
Je pense. Ou alors on n'a pas regardé la boîte aux lettres.
Ça serait une surprise alors.
C'est ça, surprise. Allez. Mais soyez là.
Ok. Dernier mot, Nico.
Au revoir.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.